sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. La tradition et les statuts de l'Institut de France qui se composent des cinq académies veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli. Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des Sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ». Monsieur Bernard Potier, délégué de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». Monsieur Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est maintenant à M. Paul Andreu, architecte, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ».
Le passé est-il passé ? J'ai essayé d'y réfléchir. D'abord dans un avion, couché, les genoux relevés sur le siège déplié à l'oblique. Un casque sur mes épaules, sur mes oreilles, étouffe le bruit des moteurs et de l'air, j'écoute Couperin, l'un après l'autre, des morceaux écrits pour la viole. J'essaie de penser au texte que je me suis engagé à écrire et à vous lire aujourd'hui. Le passé est-il passé ? Mon esprit, malgré moi, vagabonde. L'image d'un film, le souvenir d'une émission de radio il y a plus de 50 ans, quoi d'autre encore ? Les idées qui me viennent sont aussi mobiles et peureuses que des têtards dans une mare, je n'en saisis pas une. Je viens de lire que la mesure de la polarisation, excusez-moi, du rayonnement diffus cosmologique va nous apprendre des choses nouvelles sur les premiers instants de l'univers. Et comme souvent pour moi, la fascination l'emporte sur l'entendement. S'il y a un passé, c'est bien celui-là. Un peu plus loin dans le même magazine se trouve un article sur la mémoire épisodique des singes, un autre encore sur les faux souvenirs de la souris. Ne serait-il pas extraordinaire qu'un nous tous nous rassemblions dans un discours ce que nous savons, comprenons et pensons du temps, science et poésie, art, que nous partagerions avec ceux qui nous écoutent ou qui nous liront. Et sinon du temps entier, de cette question au moins sur le passé. Mais moi, là-dedans, à nouveau, ma pensée s'égare, peut-être parce que quelque chose me manque pour penser au passé. Sans doute à cause de cet obstacle, je ne comprends rien au présent. Je doute qu'il existe. Peut-être faut-il, pour le concevoir, être dans le monde et pas devant lui, entendre les mots de Rainer Maria Rilke dans la 8e élégie à Duino et y retrouver, je le cite, « nous dont les yeux sont comme retournés, la vue qu'a la bête seule sur l'ouvert ». Je n'y parviens pas. Il me semble plutôt que le présent, comme le point des mathématiciens, n'existe que comme une construction de notre esprit, une construction très utile, indispensable même, mais sans réalité perceptible. Il me semble qu'il n'y a en fait pour notre conscience, et c'est peut-être là l'effet de nos yeux retournés, que du passé. Des sons que j'entends ont mis du temps pour parvenir à mon oreille. Il a fallu du temps encore pour qu'un signal parvienne à mon cerveau. Que j'en prenne conscience, que ma mémoire agisse sans cesse pour les lier entre eux. Entendre cette musique, l'aimer, ont été des actions différées qui n'ont pas été directement déclenchées par la musique, les sons, mais par des traces successives. De la manière la plus générale, de tout ce qui s'est passé, de ce qui constitue le passé, je ne connais jamais que les traces matérielles, physiques, celles qui sont enfouies dans mon cerveau, celles ensuite qui, partagées grâce au langage puis à l'écriture, sont dans la conscience commune, celles enfin, matérielles et physiques encore, qui restent lisibles dans tout ce qui nous entoure, celle des civilisations, celle des animaux, des plantes, de tout ce qui vit, celle des climats, des roches, bref, de tout, jusqu'au rayonnement diffus cosmologique. En attendant, peut-être des traces plus anciennes encore, rendant plus énigmatique encore le temps. Les traces dans les corps, dans les livres, dans la littérature, les arts, toutes les œuvres de l'esprit. Des pyramides inversées de traces à partir de chaque trace originelle. Du passé, toujours du passé, régénéré, sans fin. Laissant la place à de futurs passés qui, à leur tour, n'existeront qu'une fois passés. Le passé n'est pas passé, il est le passé, fait de traces. De traces qui, à l'exception de quelques-unes enfouies en nous, secrètes, sont ce que nous pouvons partager. Par elles passe tout échange, toute communication. Elles se diffusent et alors, ordonnées ou pas, se multiplient, ou bien s'effacent et disparaissent. J'ignore ce qu'est le présent. En tout cas, nous ne le partageons pas. Ce que nous partageons, ce sont les traces du passé. Je déplacerai donc la question. Au jeu de mots près, elle reste la même. Les traces passent-elles ? Je reprends, mais cette fois dans mon bureau. Mais j'ai besoin d'aide. À moi, Victor Hugo. N'a-t-il pas dit sur ce sujet des choses essentielles dans le long commentaire qu'il fait au chapitre 2 du livre 5 de Notre-Dame de Paris, des mots ambigus qu'il a lui-même mis au chapitre précédent dans la bouche de l'archidiacre Frollo, « Hélas, ceci tuera cela ». Enfin, je sautais le chapitre pour revenir au plus vite à l'histoire, même quand j'en ai bien connu la fin. Architecte, je l'ai lu avec une tristesse mêlée de dépit, comme célébrant la victoire du livre sur le monument, de la littérature sur l'architecture. Je l'ai relu. Le plus important m'avait échappé jusqu'ici. Il est pourtant clairement mentionné dès la fin du troisième paragraphe. C'est l'imprimerie qui tuera l'architecture. Pas le livre, l'imprimerie, grâce à la diffusion qu'elle permet. Le bâtiment et le manuscrit, ces deux traces étaient uniques. Le premier avait la solidité de la pierre. Hugo ne songeait guère aux architectures de bois. Le second se confiait à des matériaux tous fragiles. Le livre imprimé n'est pas moins fragile, mais produit en grand nombre, diffusé partout, il devient impossible à détruire. La pensée, grâce à lui, je cite Hugo, flotte dans l'air, va partout, résiste à tout, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. Qu'importe la description que fait Hugo de l'architecture comme langage, elle est assez spécieuse. Qu'importe aussi l'évocation qu'il fait de l'architecture à son apogée, sa chute ensuite après Gutenberg, l'important du texte n'est pas là. L'imprimerie, une technique qui fait proliférer la trace à un prix et avec un encombrement qui assure sa diffusion rapide dans l'espace, permet d'accélérer le partage de ce qui peut être partagé, le passé, modifie la marche des idées, accompagne, fait connaître ou découvrir une autre politique. Qu'il serait bon, comme Hugo, de savoir faire tourner les tables et de l'interroger sur ce qu'Internet apporte aujourd'hui à la pensée. Nul doute, les coups répétés nous le diraient clairement, Internet tuera le livre imprimé. Il diffuse plus vite, moins cher partout, toutes les traces qui s'attachent à chaque trace initiale, études, commentaires, analyses, opinions, il les rassemble, il les comprime. Tout le monde accède à tout dans l'instant et nous pouvons tout conserver. Les écrits, les sons, les images, tout. Enfin, pour être plus précis, tout ce qu'on peut représenter dans le langage des ordinateurs et avec la précision des transmissions. Mais qu'importe les limitations toujours momentanées, jamais le passé n'a été aussi bien partagé. Quelques heures d'errance au hasard des mots ou de recherche organisée nous apportent plus de connaissances inattendues ou désirées que des semaines de bibliothèque. Nous gardons tout, jusqu'à en être encombrés, tout, jusqu'au plus insignifiant. Le champ de notre savoir se dilate, comme les cartes de Lewis Carroll ou de Louis Borges, toujours plus précises, augmentant leur surface jusqu'à l'absurde et l'inutilisable, jusqu'à l'inévitable abandon, la destruction. Nous sommes loin encore de la limite, mais il va falloir faire le compte de l'énergie ainsi dépensée. Elle a cessé d'être négligeable. Il va également falloir accepter l'oubli. Il est sans doute, comme dans notre cerveau, nécessaire à l'organisation et à la pérennité de la mémoire. Plus encore, il va falloir le décider. Dans ce grand tohu-bohu de merveille et d'inutilité, tout change. Des enseignants, nous n'attendons plus qu'ils nous apportent la connaissance, mais qu'ils nous apprennent comment chercher. Et plus encore, comment trier. Nous exprimons nos opinions, nous savons faire circuler les mots d'ordre, nous rassembler, déjà la politique change. Et les œuvres d'art ? Sont-elles emportées par ce courant ? Doivent-elles changer ? Changent-elles ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'elles restent délibérées et fragiles. Les œuvres d'art, toutes les œuvres de l'esprit peut-être, sont des traces délibérées. On ne les laisse pas, on les décide, on les fait. Avec les regards qui se succèdent, le temps vient battre sur elles, les fatiguer, les dégrader, les détruire à la fin souvent. Même faites du matériau le plus résistant, le plus inerte chimiquement, elles sont fragiles parce qu'elles sont uniques, parce que leur forme défie celle qui les entoure. Ce qui m'émeut le plus à Saqqara, c'est le rapport des pyramides et des collines qui les entourent. Opposition d'une forme simple issue de l'esprit, la plus simple possible, la pyramide, et celle plus complexe ou répondant à un ordre moins lisible des paysages. Ou encore, comme un lien entre elles, celle intermédiaire des pyramides plus anciennes ou moins solidement bâties. Retour à l'amoncellement, au tas, à la forme naturelle. J'ai le même sentiment quand je vois une sculpture en bois, en pierre, dont les intempéries ou le contact du sol ont dégradé la forme donnée par l'artiste. Celle-ci, souvent, partait de celle constitutive du matériau. Elle ne la niait pas. La dégradation l'y ramène. Et parfois, l'œuvre qui se dégrade ainsi, selon son propre fil, devient-elle, dans sa fragilité respectée, la trace la plus émouvante, celle que l'on charge le plus de sens. La peinture, la gravure, la sculpture sont délibérément fragiles parce qu'elles sont uniques ou que leur édition est limitée. Victor Hugo le dit, il suffit d'un peu d'explosif pour défigurer les plus solides. Ceux qui s'en prennent au sphinx et au Bouddha le savent bien. La photographie et le film le sont aussi, et l'architecture toujours davantage, mais d'une autre manière. Parce que les techniques auxquelles elles ont recours sont de plus en plus élaborées. Pour m'en tenir ici à l'architecture, il est clair que les bâtiments modernes, même construits avec le plus grand soin et des connaissances bien supérieures, sont plus fragiles que ceux d'il y a 500 ans, parce qu'ils utilisent toujours en plus grand nombre des équipements de durée courte, dont la conception change, et des matériaux industriels dont la fabrication ne peut pas être reprise pour de petites quantités. Avec d'autres outils, un tour de main différent peut-être, il est encore facile de changer des pierres abîmées d'une façade. Il est impossible de relancer la fabrication d'un produit industriel abandonné. Le choix sera de plus en plus souvent de démolir ou de reconstruire en partie autrement. La trace originelle sera perdue, une autre prendra sa place, sincère dans son intention, mais différente. Les conservateurs en sont bien conscients. C'est la grande force des livres qu'on retrouve dans la décharge. Dans une décharge, le dernier exemplaire d'un livre, souillé, déchiré, à peine encore lisible. On pourra l'éditer à nouveau sans que rien d'essentiel ne se perde, sinon pour un bibliophile. Mais dans sa faiblesse, l'œuvre originale, unique, puise une force singulière. À travers le temps, les regards de l'auteur et du spectateur s'y succèdent. C'est Sacha Guitry qui me l'a fait comprendre à sa manière. Il avait une émission de radio le dimanche soir, ce devait être dans les années 50, dans lequel il parlait de beaucoup de choses, et souvent de lui. Un jour, il a expliqué la volupté d'être seul devant la Joconde. Seul, assurément seul, insistait-il. Volupté qu'aucune œuvre de la littérature ne pourrait jamais lui procurer, puisqu'il ne pourrait jamais savoir combien, en même temps que lui, partager la beauté d'un texte de Shakespeare ou de Racine. Pour moi, qui ne connaissais la peinture que par les reproductions des éditions Skira, c'était un propos à la limite de l'indécence. Il ne révélait que l'égotisme de son auteur. Et pourtant, il avait raison. C'est de leur fragilité souvent extrême que ces traces délibérément uniques que sont beaucoup des œuvres d'art tirent leur force. Je vois d'ailleurs dans les installations temporaires, dans les œuvres comme celle de Christo ou de Galwafi, qui sont éphémères, une volonté d'accepter la fragilité en devançant le moment de la destruction et de la disparition de l'œuvre, qui s'assimile alors à un spectacle, mais à une autre échelle du temps. Cette volonté ne va cependant pas, le plus souvent, jusqu'à l'oubli. Au-delà des mémoires individuelles, l'œuvre persiste grâce à des traces matérielles secondaires, dessins préparatoires, photos, vidéos, textes qui attestent de sa nature matérielle disparue et peut, même si ce n'était pas le but poursuivi, s'intégrer ainsi au marché de l'art. On me pardonnera de ne rien dire de la musique. Longtemps, elle n'a pas eu de traces premières. Puis est venue la notation et sa complexité croissante, mais qui ne dictait pas l'interprétation. Que peut-on dire aujourd'hui qu'elle est créée, enregistrée, restituée grâce à des techniques toujours plus élaborées? Sa diffusion sans obstacle donne-t-elle à sa fragilité une force semblable à celle du livre? D'autres le diront, je suis trop ignorant. Je ne m'étendrai pas davantage à parler des espaces réputés infinis de la virtualité, la promesse toujours réitérée d'un art nouveau qui combinerait, qui assimilerait tous les autres. Comment parviendra-t-il à vaincre ce paradoxe, vouloir se détacher de toute matérialité, quand il ne peut être partagé que par le recours à des traces qui, elles, sont toutes matérielles? C'est dans le train que je poursuis. Montaigne m'en a excusé d'avance qu'il ait la pensée au mouvement. Le passé est-il passé? Les artistes et d'une manière plus générale, les créateurs se posent-ils cette question quand ils travaillent? À de rares exceptions près, je ne saurais pas en citer une seule, jamais sans doute. Leur seul désir est d'ajouter quelque chose de nouveau, au minimum de poursuivre, ou bien mieux, de tout renouveler. Évidemment pas. Pour autant, le passé est-il sans influence sur la création? Évidemment pas. Comment serait-il possible de se débarrasser de toutes les traces dont même dans la retraite la plus déserte nous sommes envahis? Fuir privé de repères, comment le ferait-on? Le passé, prison qu'il faut fuir, ou grand travail collectif qu'il faut poursuivre, en dépit de toutes les dénégations, influence la création. Mais les rapports qu'ils ont entre eux sont si divers, si cachés souvent, si secrets et si délibérément méconnus, que je ne me hasarderai pas à tenter de les décrire. Je ne sais répondre que pour moi, et encore. Je ne le fais que si j'y suis contraint, soit ce qui est rare parce que j'ai à faire un projet dans un site ancien en France, soit ce qui est beaucoup plus fréquent quand je travaille hors de France et qu'on me demande en quoi le projet que je propose se réfère à l'héritage de la culture locale. La question est bien souvent polémique. Elle est la même ici ou là. Elle se transpose aisément terme à terme. Un Chinois peut-il construire une pyramide de verre au centre du Louvre? Un Français, une bulle de titane au centre de Pékin? Il ne connaît pas notre culture, il ignore tout de notre passé. Il est trop aisé, trop sommaire surtout de répondre que les Français ne portent plus de perruques et de rubans et les Chinois n'ont plus de nattes. Mais que répondre? Que j'adopte toujours la même attitude. Du passé, je me sens toujours imprégné, où que je sois. Ces traces sont partout. J'ai avec lui la relation que j'ai toujours espérée, que j'ai pu avoir parfois, avec ceux que j'ai acceptés comme mes maîtres. Tantôt je m'abandonne, et tantôt je résiste. Mais jamais tout à fait, et toujours librement, sans système. Je suis un cueilleur, pas un cultivateur. En cela, peut-être suis-je un grand-père compréhensif de cette petite poussette chère à Michel Serres, qui se promènent dans le savoir sans craindre les désordres des chemins de traverse et les sauts. Les traces du passé sont des abris, des refuges, si on donne à ce mot le sens que lui donnent les alpinistes, mais en récusant aussitôt ce qu'on associe, alors la connaissance du but et le parcours en groupe. Dans ce cheminement solitaire qui est le mien, concomitant à tant d'autres, le mouvement qui sous-tend la question aujourd'hui s'inverse. Ce n'est pas le passé qui passe, c'est nous qui passons à travers lui. Comme l'eau, le thé ou les fibres du tissu, la teinture, il nous colore. De nos promenades, nous revenons tout bariolés. Certaines couleurs restent, d'autres s'effacent. À la fin, notre cerveau, pardon, le mien, ressemble, je crois, à une serpillière. Ou pour employer les mots plus insolites de nos voisins belges, une loque à reloqueter. Il est usé, troué, chargé de traces, de fragments rassemblés par le hasard et le désir. C'est ce cerveau-là qui a sans doute plus rassemblé qu'inventé, qui fait de l'architecture ou qui écrit quand, longtemps attendu, imprévisible, une pulsion y prend naissance, laisse une trace qui se développera en un projet, mais au prix des hasards et des efforts d'un long travail. Un projet pour ce lieu et pour ce moment. L'avion, mon bureau, le train, de toutes mes notes désordonnées, j'aurais attiré une sorte d'ordre, de discours. J'ai bien peur de mal y parvenir. Je n'ai jamais vraiment été un bon élève, studieux, appliqué et obéissant. Je me rassure en me disant que chacun comprendra avec indulgence que je m'en tienne à une histoire, à cette fiction sur ce qu'a été ma réflexion, et ne me tiendra pas rigueur de la changer demain peut-être. Merci de m'avoir écouté.